Alors, nous accueillons Dominique Lédé, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Québec à Montréal. On connaît son travail sur la théorie de la démocratie et de la délibération publique dans les sociétés pluralistes, avec une réflexion en particulier sur l'idée et la pratique du compromis politique. Son travail porte également, et j'ai envie de dire naturellement, sur cet objet un peu hybride qu'est le constitutionnalisme, à la frontière entre philosophie politique, philosophie du droit et droit lui-même. Je voudrais juste, avant de lui donner la parole, souligner un petit peu l'originalité de sa démarche qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est à savoir qu'elle ne s'en tient pas simplement à l'analyse des principes de la démocratie délibérative, dont on voit d'ailleurs les limites aujourd'hui, une forme d'épuisement dans les théories délibératives, mais sa démarche consiste en fait à évaluer des lieux institutionnels particuliers, comme sont les cours et les parlements, et à analyser, à évaluer l'impact des contraintes structurelles de ces lieux de délibération sur les résultats mêmes de la délibération. En d'autres termes, tu sais de montrer qu'on ne délibère pas de la même manière dans une cour ou dans un parlement, et ça a un effet, les procédures choisies ont un effet sur les types de résultats. Voilà, c'est une originalité de la démarche qui me paraît essentielle de souligner. Je te laisse la parole pour 12-15 minutes.
Merci. Donc, je serai brève, pas parce que je suis vertueuse, mais parce que j'avais mal compris le temps qui m'était imparti.
Donc, j'avais très bien compris.
Donc, j'aimerais d'abord remercier Marc-Antoine et les gens du Créum de m'avoir permis de participer à cet événement important. Donc, Jocelyn l'a signalé, mais je pense que c'est vrai, ça mérite d'être souligné plus d'une fois à quel point le Créum joue un rôle important dans la vie philosophique à Montréal, au Québec et de manière générale, je pense, dans le monde francophone. Et donc, je pense, bon anniversaire au Créum et je vous souhaite encore plusieurs longues années de discussions et de débats et avoir la richesse des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'en effet, on peut prédire au moins une chose, c'est un bel avenir, je crois, à ce lieu de discussion qu'est le Créum. Alors, je vais commencer mon intervention avec quelques remarques préalables. Premièrement, je pense que peu importe le niveau d'idéalité auquel les philosophes politiques prétendent situer leurs réflexions, ils s'orientent toujours, ou le plus souvent, à partir de leur expérience du politique. Ce qui veut dire, d'une part, de leur perception de ce qui constitue les problèmes les plus pressants du vivre ensemble, et je pense qu'Alain Renaud a donné un très bel exemple de cela dans sa conférence, mais aussi, d'autre part, de leur connaissance des institutions politiques spécifiques qui structurent la société dans laquelle ils vivent. Et c'est probablement ce qui explique le côté toujours un peu parochial de la philosophie politique. Ça m'a toujours frappé à quel point, lorsqu'on lit des textes de philosophes politiques, on s'aperçoit que le système dont ils font l'éloge, c'est celui dans lequel ils vivent, comme par hasard. Et donc, on a une défense et illustration du constitutionnalisme américain par Dworkin, on a une défense et illustration du modèle républicain par les auteurs français, on a une défense et illustration du multiculturalisme canadien par les auteurs canadiens, mais évidemment, toujours à un haut niveau d'abstraction normative. Alors ceci c'est pour mettre la table sur la façon dont je vais répondre à la question posée, c'est-à-dire à partir de l'expérience que j'ai pu faire des événements politiques du printemps dernier au Québec et du contexte plus large dans lequel ceux-ci se sont produits. Ces événements posent un certain nombre de questions pressantes qui devraient occuper nos recherches au cours des prochaines années, ou du moins pour ceux qui s'intéressent à la théorie de la démocratie. Et il me semble en effet que la théorie de la démocratie est certainement un des sous-domaines les plus importants, sinon le plus important de la philosophie politique, parce que justement, et comme l'a montré, je pense, Alain Renaud, la question qui doit être au centre de la théorie de la démocratie, c'est aussi la question de la conflictualité, c'est-à-dire comment nous pouvons penser à des institutions, à des moyens de confronter cette conflictualité et de faire en sorte que nous puissions vivre à la fois librement et pacifiquement malgré cette conflictualité. Alors, je ne prétends pas que les questions que je vais esquisser rapidement soient nouvelles, puisqu'une des raisons pour lesquelles la philosophie politique est promise à un bel avenir, c'est qu'elle règle rarement les problèmes auxquels elle s'intéresse. Elle les délaisse parfois pour un temps, non pas parce que la question est épuisée, mais parce que les participants au débat, eux, le sont. Et puis, quelques années plus tard, après avoir repris leur souffle ou poussé par les événements, ceux-ci ou leurs successeurs reprennent le débat. Et on peut simplement espérer qu'ils le font en ayant appris quelque chose du round précédent. Alors, voilà, donc je vais tout simplement m'intéresser donc à évoquer deux thèmes qui, me semble-t-il, devraient nous occuper dans les prochaines années. Peut-être que ce qui m'a le plus frappé le printemps dernier, c'est ce qu'on a appelé l'opposition entre la rue et les urnes. À travers ce slogan, la rue et les urnes, la rue contre les urnes contre la rue, nous avons vu au moins deux prétentions à la légitimité entrer en compétition. Alors, d'une part, la légitimité issue des urnes, celle d'un gouvernement élu au suffrage universel, prétendant parler au nom de la majorité silencieuse, et d'autre part, la légitimité d'un mouvement social qui se mesurait notamment à sa capacité de mobiliser un nombre important de citoyens sur plusieurs semaines et de façon répétée. Il me semble que ce conflit, cette opposition des légitimités repose une question importante pour la théorie de la démocratie qui devrait, je pense, nous occuper. C'est celui du rapport entre les institutions démocratiques formelles liées à la démocratie représentative et la société civile. Alors, ce n'est pas une question nouvelle, puisque la théorie habermasienne s'y est intéressée, notamment à travers deux métaphores, qui sont les métaphores du siège et des écluses. Et ces deux métaphores avaient en commun l'idée générale que les mouvements issus de la sphère publique informelle ont pour tâche d'identifier des problèmes, formuler des revendications, etc., et exercent une influence sur les institutions politiques formelles, et que celles-ci sont finalement conduites, si tout marche bien, à les reprendre, à en faire l'objet d'une discussion, d'une évaluation, à les traduire dans le médium du droit, sous la forme de lois ou de politiques publiques. Alors, le maillon faible de ce modèle, et qui devrait revenir, selon moi, sous la loupe des chercheurs, y compris des philosophes politiques, c'est ce que Habermas appelait le complexe parlementaire. Et donc, cette institution centrale de la démocratie représentative qui est en crise depuis au moins le début du XXe siècle et que nous avons un peu abandonnée, selon moi, à tort. Dans la philosophie politique contemporaine, on lui a préféré la société civile et, en effet, on peut dire qu'à partir des années 80, il y a une sorte de déplacement du socle normatif de la démocratie vers les institutions démocratiques formelles, des institutions, pardon, démocratiques formelles vers la société civile. Et je pense que Habermas a fait partie de ce mouvement. Donc, d'une part, on lui a préféré la société civile ou encore les tribunaux, ou toutes sortes d'institutions parallèles pensées pour appuyer de l'extérieur une institution mal connue et mal aimée. Le Parlement reste pourtant une institution centrale parce qu'il se trouve au point de jonction de la délibération publique et de la représentation. Et c'est en grande partie la difficulté de penser le Parlement comme lieu de la délibération qui a mené donc les philosophes politiques contemporains à lui préférer soit les cours constitutionnels comme lieu de la raison publique, je pense à Rawls, à Dworkin et aux autres, ou encore donc la sphère publique informelle chez les Habermasiens. Il y a eu, dans les années 90, le développement d'une réflexion importante sur la question de la représentation, notamment sur les droits spécifiques de représentation revendiqués au bénéfice de groupes historiquement désavantagés, faisant partie de ce mouvement qu'on a appelé « the politics of presence ». Mais cette réflexion a peu touché la seconde fonction, pourtant essentielle du Parlement, comme lieu de discussion publique. Alors, il me semble que les événements du printemps dernier montrent que la démocratie contemporaine a besoin de quelque chose comme le Parlement, ou en tout cas que nous avons besoin de réfléchir à nouveau sur la démocratie représentative, et que nous avons besoin, dans le contexte de cette réflexion, de réfléchir donc, pour reprendre la belle expression de John Stuart Mill, de repenser donc à une institution qui puisse fonctionner comme le comité des plaintes et le congrès de l'opinion de la communauté politique. Je pense en effet, et là je vais rebondir sur ce que Marc-Antoine a déjà dit, ce qui montre qu'en fait, je radote. je pense que nous avons besoin d'une réflexion située sur la délibération. Et une des choses qui m'inquiète dans la tendance récente prise par la réflexion sur la délibération publique, sur la démocratie délibérative. C'est une tendance à vouloir maintenant envisager la démocratie délibérative selon une sorte de tournant systémique. Alors maintenant, on dit la délibération comme telle, c'est vrai qu'on ne la trouve plus vraiment... c'est difficile de trouver un ancrage institutionnel, mais on va considérer que maintenant... peu importe le type de... Enfin, on va essayer de montrer comment la négociation, le marchandage, la délibération contribuent à rendre le système démocratique globalement plus délibératif. Et il me semble que lorsqu'on fait un tel passage, on finit par perdre ce que la notion de délibération pouvait avoir d'opératoire. Une autre chose qui me semble intéressante et peut-être aussi un peu inquiétante, c'est qu'on assiste depuis quelques années, dans les discussions en philosophie et en théorie politique sur la représentation, à une dévaluation de l'élection. En effet, de nombreux chercheurs ont voulu contester le monopole de l'élection comme base de la représentation, monopole incontesté dans la littérature d'après la Seconde Guerre mondiale. Ça, je pense que c'était une chose intéressante. Et cette dévaluation sur le plan théorique rejoint une dévaluation sur le plan pratique. En témoigne la tendance lourde à une baisse du taux de participation dans la plupart des démocraties avancées. Je pense qu'il y a certainement là matière à réflexion sur la place du suffrage universel dans la démocratie contemporaine par rapport aux autres dispositifs pouvant permettre ce que les politologues aiment appeler la responsiveness des institutions politiques. Et il me semble qu'il y a là un programme de recherche important. Mon deuxième thème, c'est ce que j'appelle le roman de la démocratie. Donc là, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, la philosophie politique contribue à ce que j'appelle le roman de la démocratie, c'est-à-dire à cette histoire remplie de péripéties à travers laquelle le peuple recherche le pouvoir. Elle y contribue en élaborant, en réélaborant, en critiquant le vocabulaire, le langage à travers lequel cette recherche est pensée et à travers lequel elle s'exprime. Une des notions clés de ce vocabulaire, tel qu'il se développe à la fin du XVIIIe siècle, est celle de souveraineté populaire. La philosophie politique contemporaine a eu maille à partir avec cette notion et ses implications. Et donc j'aimerais donner trois exemples récents. Habermas, par exemple, conserve le terme de souveraineté populaire et il l'utilise au fond comme une métaphore, comme une image, en nous disant qu'on doit la comprendre comme un ensemble complexe de procédures évoquant l'image paradoxale d'une souveraineté populaire sans sujet. Philip Pettit, qui est l'autre contributeur de votre numéro spécial, nous convie plutôt à abandonner ce langage, à laisser tomber le vocabulaire de la souveraineté, de la volonté, du consentement, à la fois parce qu'il est conceptuellement inapplicable à des entités comme les communautés politiques et parce qu'il ne saisit pas le rôle des institutions et procédures démocratiques, soit d'opérer comme outil de sélection des politiques publiques pouvant le mieux répondre aux intérêts, aux besoins des citoyens. L'essentiel de la démocratie réside plutôt dans les dispositifs par lesquels les citoyens peuvent contester les décisions collectives. Charles Taylor, quant à lui, refuse de s'engager sur le terrain conceptuel ou normatif et décrit plutôt comment la souveraineté populaire est un de ces imaginaires sociaux qui jouent un rôle important dans la vie démocratique. Voilà donc trois façons dont la philosophie politique contemporaine a appréhendé un des termes centraux de l'idéologie démocratique. Chacun pose des problèmes. Toutes montrent le malaise des philosophes à la fois sur le plan conceptuel, sur le plan normatif et descriptif. Quelle est la pertinence d'un tel langage dans les conditions de nos sociétés complexes et mondialisées? Les événements du printemps dernier, les manifestations importantes qui ont lieu au Québec comme ailleurs, l'expression de revendications qui manifestent une volonté d'agir collectivement et politiquement, montrent l'importance d'interroger de nouveau le rapport de la philosophie politique aux métaphores, aux images, aux notions clés qui caractérisent le roman de la démocratie et qui font agir les gens tous les jours. À travers cette entreprise de clarification, on retrouve deux questions éternelles, et je vais vous laisser là-dessus. De la théorie de la démocratie, que pouvons-nous espérer de la démocratie et que devons-nous en attendre? Merci.